les amphis d'Amicus.
Dans cette édition spéciale, les étudiants de Master 2 de l'Université Paris Panthéon-Assas prennent la parole et partagent leur regard sur des questions juridiques actuelles autour du micro d'Amicus Radio.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce deuxième épisode consacré à la justice restaurative. Nous allons cette fois-ci nous intéresser à l'histoire et aux différentes approches de cette justice.
La justice restaurative est issue de pratiques ancestrales. Dès les premiers jours de l'humanité, les conflits intersubjectifs n'ont jamais cessé d'exister. Ils sont consubstantiels de notre humanité. Et nos ancêtres ont dû trouver des moyens de réguler précisément ces conflits. Et contrairement à des positionnements un peu linéaires, de la brutalité à la réponse humaniste, les premières mesures n'excluaient sans doute pas de manière radicale l'exclusion de l'auteur, de sa communauté, de son clan, de sa tribu, mais bien évidemment portait aussi en elle les linéaments, les racines de la justice restaurative, qui consistait précisément à trouver ensemble les solutions qui permettraient à la fois de sanctionner l'intéressé, d'indemniser la victime pour ses dommages, mais d'assurer la réintégration de l'infracteur comme de la victime, comme de leurs proches, au sein de ce que l'on appelle aujourd'hui la communauté.
Comme le dit Robert Cario, les premières formes de justice restaurative sont très anciennes. Elles sont d'abord apparues au Canada, en Afrique, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et en Australie. À l'époque, ce n'est pas à proprement parler la justice restaurative que l'on connaît aujourd'hui. On est davantage sur des pratiques ancestrales de certains peuples africains, des Maoris de Nouvelle-Zélande ou d'Indiens d'Amérique du Nord. L'Association pour l'introduction des pratiques de justice restaurative explique que ces systèmes de justice traditionnels considèrent généralement que l'agresseur s'est coupé de la société par l'offense qu'il a commise. C'est dans les années 1970, au Québec, que cette justice renaît. À ce moment-là, on la nomme justice réparatrice et son retour sur le devant de la scène, on le doit au Centre de services de justice réparatrice, qui est un centre indépendant et qui organise, met en place, des rencontres détenues victimes. Mais alors ?
La justice restaurative, d'où ça sort ?
Finalement, le concept de justice restaurative, et non plus réparatrice, attention, on le doit, comme vous l'avez vu dans le premier podcast de cette série, à Howard Zerr, son père fondateur. Criminologue et professeur d'université aux États-Unis, il est un des premiers, à la fin des années 70, à enseigner, outre la sociologie, la justice restaurative. Du côté de la littérature anglo-saxonne, la justice restaurative, et non plus réparatrice, apparaît dans les années 1990. Analysons désormais l'émergence de la justice restaurative en France.
Nous avons pu parler librement, vraiment exprimer ce que l'on avait sur le cœur. J'ai pu dire ce que je pensais et mettre des mots sur ce que j'ai vécu.
J'ai pu dire des choses que je n'avais jamais dites avant. C'est sorti naturellement. Grâce à l'animateur, je me sentais bien, en confiance.
Je le voyais uniquement comme un bourreau. Maintenant, je n'ai plus peur de lui. Je le vois comme un homme.
Plein de choses ont changé suite à cette expérience. Parfois, on est tenté de faire des erreurs. Mais je ne les referai plus. Aujourd'hui, je comprends ce que ça fait.
Nous avons dialogué. C'est un premier pas vers la paix. Et maintenant, je peux avancer.
En France, le pionnier de la justice restaurative s'appelle Robert Cario. Vous l'avez entendu dans le premier extrait audio de ce podcast. Son intérêt pour la justice restaurative remonte au milieu des années 80 et on lui doit la création, en 1999, d'un master de criminologie et droit des victimes au sein de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Cette formation a été le point de départ de travaux de recherche sur la justice restaurative en France. À ce sujet, l'Institut français pour la justice restaurative nous donne notamment deux dates marquantes qui permettent de comprendre l'apparition de la justice restaurative en France. La première, c'est l'année 2008. La seconde, c'est l'année 2010. En 2008, c'est la date à laquelle ont lieu les 23e assises nationales de l'INAVEM, désormais France Victime, sur le thème de la réparation à la restauration des victimes. L'année 2010, c'est l'année au cours de laquelle a lieu une première expérimentation de rencontre détenue victime. Elle est mise en place à la Maison Centrale de Poissy et marque le point de départ d'un mouvement de généralisation en France. la plateforme française pour la justice restaurative, ainsi que certaines institutions publiques, ont également contribué à cette généralisation. Mais quid de son appellation en France, justice réparatrice ou justice restaurative ?
Expliquez-nous en deux mots la différence entre justice réparatrice et justice restaurative.
Oh, en réalité, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Lorsque j'ai fondé mon association, il n'y avait pas encore une dénomination officielle inscrite dans la loi. Et c'est vrai que, alors en bon juriste, j'ai préféré donc intituler justice réparatrice parce que on a déjà dans notre, dans nos mécanismes juridiques cette notion de réparation. Oui. Et effectivement, après, lorsque donc la justice restaurative réparatrice a évolué en France, on est allé vers plutôt l'appellation justice restaurative, hein, qui est d'ailleurs intitulée de cette façon-là au Canada, et qui est plus liée à la restauration du lien.
Vous l'avez entendu dans cet extrait audio, et Stéphane Jacquot, juriste et fondateur de l'Association nationale de la justice réparatrice, l'explique très bien. La France a connu les mêmes évolutions que le monde anglophone. D'abord connue sous le nom de justice réparatrice, cette justice a finalement été consacrée par le législateur, sous le nom de justice restaurative. Écoutez Jean-Pierre Gratien à ce sujet.
Cette justice restaurative a été introduite dans la loi française en 2014, c'était à l'occasion de la réforme pénale menée à l'époque par Christiane Taubira, hein, qui était la garde des Sceaux à l'époque. Laurence Duchesnier, on vient de sortir de ce film. Est-ce qu'on peut bel et bien parler d'une forme de justice restaurative après le documentaire qu'on vient de voir? Et cet exemple tiré du Sénégal.
Alors non, pour moi ça n'est pas la justice restaurative, même si le débat qui est le documentaire que nous venons de voir est une très belle illustration de ce que l'on peut faire en matière de réparation s'agissant de l'auteur.
Cette consécration s'est donc faite en 2014 via la loi pour l'individualisation de la peine et l'efficacité des sanctions pénales, qui prévoit notamment qu'à tous les stades de la procédure pénale, la victime et l'auteur d'infraction peuvent se voir proposer, sous réserve que les faits soient reconnus, une mesure de justice restaurative. Mais comment s'articule la justice restaurative avec le système pénal traditionnel ?
Je m'appelle Nassim, j'ai 29 ans.
Vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez entendu parler de la justice restaurative ?
C'est des victimes qui rencontrent des détenus.
Oui, c'est ça.
Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place, on ne suggère rien, on écoute, on accueille, inconditionnellement.
Vous avez pu entendre dans cet extrait de la bande-annonce du film « Je verrai toujours vos visages » que la justice restaurative est basée sur l'écoute et consiste, comme nous l'avons déjà dit, en la rencontre entre des victimes et des détenus. Mais si les modalités et les finalités de la justice restaurative font l'objet d'un relatif consensus, il n'en va pas de même concernant l'articulation entre cette justice et le système pénal traditionnel. Il existe alors deux approches, l'approche minimaliste et l'approche maximaliste. La première, l'approche minimaliste, est définie par Tony Marshall comme un processus par lequel toutes les parties impliquées dans une infraction spécifique se réunissent pour résoudre collectivement la façon de faire face aux séquelles de l'infraction et à ses implications pour l'avenir. Donc, il définit la justice restaurative comme un processus et celui-ci viendrait se greffer sur la justice pénale sans en modifier les principes ni le fonctionnement. Il n'y aurait alors aucune interférence avec la procédure pénale classique. Ce à quoi s'oppose fondamentalement l'approche maximaliste, présentée par Bazemore et Walgreve comme une manière de faire justice orienté prioritairement vers la restauration des souffrances et dommages causés par un délit. Avec cette approche, il y a une grande importance accordée à la finalité de la justice restaurative, à savoir la réparation des préjudices. Donc, pour les partisans de cette approche, la logique répressive et la logique restaurative ne sont ni rivales ni complémentaires. En revanche, elles participent d'une théorie plus générale de la justice.
Et puis, il faut bien comprendre aussi que la justice restaurative, ce n'est pas une alternative à la justice pénale. C'est-à-dire que qu'il y ait poursuite ou pas poursuite, la justice restaurative peut se mettre en place, mais elle ne vient jamais remplacer l'œuvre de justice qui consiste à interpeller quelqu'un, rassembler des preuves contre lui, et s'il y en a assez, le déclarer coupable et le condamner.
Finalement, comme vous l'avez entendu, en France, on a essayé de trouver un équilibre entre ces deux approches, pour préserver d'une part l'imperméabilité du processus, que ça reste en parallèle du procès, mais également pour pouvoir envisager de manière large les formes que cette justice peut prendre. Médiation, conférences, rencontres, etc. Pour conclure, la justice restaurative est donc à la fois très ancienne, référence aux pratiques ancestrales, et très récente, puisque consacrée en 2014 seulement par le législateur français. Par ailleurs, même si la France tente de trouver un équilibre entre les approches minimalistes et maximalistes, le débat reste ouvert car il existe deux modèles de la conception maximaliste. Le premier s'inscrit dans une perspective rétributive et le second privilégie une approche conséquentialiste. Merci de votre écoute. Vous verrez dans le prochain épisode la mise en œuvre de la justice restaurative avec Mallory Trouny. Au revoir.
Cet épisode des Amphis a été produit par Amicus Radio, avec le soutien de la Fondation Panthéon Assas, qui encourage et valorise l'entrepreneuriat étudiant. Merci à la professeure Cécile Chenet et à Aubin Jupin pour leur aide précieuse dans la coordination de ce projet. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre Amicus Radio sur les réseaux sociaux.